Bonjour, il est 13h, on se retrouve dans votre émission Génération. On va passer 40 minutes ensemble avec un programme chargé encore une fois. Au sommaire aujourd'hui, Sandrine Capel, directrice du Centre de formation pour apprentis, nous présentera la Nuit de l'orientation. C'est la 7e édition cette année, ça se passe ce samedi 31 janvier au Centre Pierre Cointreau de la CCI à Angers. On vous en parle ici tout à l'heure pour en savoir plus. Vous retrouverez la chronique de l'association ligérienne d'addictologie ALIA. Cette fois-ci, Vincent Biraud est venu nous parler de l'usage des écrans. Ensuite, Pascal Dugy et Stéphanie du CIO feront un zoom sur le Parcoursup. Ce que c'est, comment ça fonctionne, vous saurez tout. Et puis, vous découvrirez les deux nouvelles licences proposées par l'Université catholique de l'Ouest. Ça sera Sophie Roche qui vous en parlera. Et pour terminer l'émission, comme d'habitude, on sera en compagnie des jeunes en service civique à Unicité. Cette fois-ci, c'est Céline, Aurélie et Maïva qui sont venus nous parler de leur mission anti-gaspi. Voilà ce qui vous attend pour les 40 prochaines minutes. Vous êtes sur Radio G dans l'émission Génération. À tout de suite. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Sandrine Capel. Elle est venue il y a quelques jours en studio pour nous parler de la Nuit de l'orientation. Ça se déroule demain, donc vendredi 31 janvier, de 17h à 22h au Centre Pierre Cointreau de la CCI de Maine-et-Loire. Je vous laisse avec Sandrine Capel.
La Nuit de l'orientation, c'est un événement qui est organisé depuis maintenant 7 ans en Maine-et-Loire, par la CCI de Maine-et-Loire et par un certain nombre de partenaires, pour permettre à des jeunes de construire, de préparer leur projet d'orientation. Donc c'est un temps fort départemental qui s'inscrit à côté d'un certain nombre d'autres temps forts qu'on peut retrouver, des forums, des portes ouvertes et tout l'accompagnement dans le quotidien que les professionnels de l'orientation peuvent mettre en place. Et l'ambition de ce temps fort, c'est d'organiser sur un temps un peu festif, c'est aussi l'esprit, on peut s'orienter encore sans stress, c'est de pouvoir rassembler tous les professionnels autour du jeune, pour pouvoir l'aider à y voir un petit peu plus clair, à mieux se connaître, à découvrir aussi tous les champs des possibles, puisqu'on a mobilisé à nos côtés et à côté des professionnels de l'orientation un certain nombre de professionnels des métiers, des entreprises, qui ce soir-là, à travers des échanges assez rapides, vont parler du quotidien de leur métier, de leur parcours, pour permettre d'orienter, d'accompagner dans le choix futur les jeunes et les familles. La Nuit de l'orientation cette année a lieu le 31 janvier, de 17h à 22h. Volontairement, c'est en soirée, comme ça permet à tout le monde de se libérer après le collège, après le lycée, après l'université. Et ça se passera cette année au centre Pierre Cointreau de la CCI de Maine-et-Loire, donc un lieu facile d'accès où l'on peut facilement se garer. D'abord, c'est une nuit de l'orientation, donc on va y retrouver tout ce qu'on peut faire quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs à l'occasion d'une nuit avec des animations, de la musique, un DJ, des éclairages. Et on va y retrouver donc autour de l'orientation sans stress un certain nombre d'ateliers, c'est-à-dire que, et d'espaces où l'on va pouvoir être accueilli, guidé, orienté, où l'on va pouvoir justement rencontrer dans un cadre un petit peu différent les professionnels qui sont présents, donc voilà, des entretiens assez rapides, mais qui permettent vraiment de rentrer dans le concret, de pouvoir témoigner de la réalité des métiers et de leurs évolutions, puisque c'est vrai que les métiers évoluent fortement. On va pouvoir aussi, autour de l'interactivité, avec des jeux interactifs, des serious games, des films à réalité virtuelle, découvrir aussi les univers professionnels. Voilà, c'est intéressant. Quelquefois, on a des idées de métiers, par exemple, dans l'industrie. Entre l'idée et la réalité, ces outils numériques peuvent nous permettre déjà de s'y approcher. Et puis donc après, un espace, bien évidemment, avec des conseillers en orientation pour, du coup, une fois qu'on a imaginé le champ des possibles sur les univers professionnels, voilà, voir un petit peu quelles sont les modalités pour préparer son parcours de formation, quel qu'il soit, et s'orienter vers ses métiers. Et à côté de ça, un certain nombre d'ateliers, de conférences, pour pouvoir éclairer les jeunes et les familles. On va parler des métiers qui sont en tension, parce que c'est important de savoir dans un environnement territorial quelles sont les entreprises, quels sont les univers professionnels qui recrutent. Et en Maine-et-Loire, il y en a un certain nombre aujourd'hui. On parlera d'alternance et d'apprentissage, parce que c'est aussi une modalité de préparer un métier. On parlera d'orientation sans stress, il y aura les ateliers de relaxation. Il y aura également un certain nombre d'espaces où on apprendra à mieux se connaître à travers aussi des questionnaires d'intérêt pour, en fonction de ce qu'on aime faire, de ce qu'on est, pouvoir imaginer des univers professionnels dans lesquels on pourra évoluer. On a des ateliers autour de la découverte, comment découvrir mon talent, parce qu'on a tous des talents, même si on n'a pas d'expérience, on a dans sa vie personnelle et dans sa façon d'être des talents, donc comment je peux les valoriser aussi pour les mettre à profit de mon projet. Donc voilà, tout un certain nombre d'ateliers, conférences avec une mixité d'acteurs, de professionnels, vraiment dans l'accompagnement, et une soirée animée avec une ambiance conviviale et détendue. Alors, la nuit de l'orientation est ouverte à toutes et tous, hein, sur les horaires que je précisais, 17h-22h. L'accès est libre, il n'y a pas d'inscription nécessaire, si ce n'est se présenter à l'accueil du centre Pierre Cointreau de la CCI de Maine-et-Loire et se laisser guider. Donc, la nuit de l'orientation, 31 janvier 2019, de 17h à 22h, au centre Pierre Cointreau de la CCI de Maine-et-Loire. Et donc, ouverture à toutes et tous, quel que soit son âge, quel que soit son projet. Un certain nombre d'acteurs partenaires sont justement présents ce soir-là pour vous aider à accompagner et à construire ce projet.
C'était Sandrine Capelle au micro de Génération pour la nuit de l'orientation. Pour la suite, je vous laisse écouter la chronique de Vincent Biro, psychologue à la MDA, donc la Maison des Adolescents, et au CJC ALIA, Association Ligérienne d'Addictologie. Il est venu nous parler des risques liés aux écrans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réalité virtuelle et peut-être faire un peu d'anticipation. Mais tout d'abord, peut-on faire un état des lieux de la réalité virtuelle, en commençant d'ailleurs par la définir ?
Tout à fait. Lorsque l'on parle de réalité virtuelle, nous parlons essentiellement des casques VR et de réalité augmentée. La particularité des casques de réalité virtuelle, c'est de proposer à l'utilisateur une expérience immersive intense, en le coupant de sa sensorialité habituelle pour le connecter à une sensorialité et un imaginaire créé dans un univers virtuel. Cet imaginaire peut être réaliste ou bien totalement artificiel. Imaginez des lunettes enveloppantes, couvrant entièrement les yeux. Dans ces lunettes, qui vous isolent entièrement du monde extérieur, une image en 3D est projetée, vous donnant l'impression de voir en relief, avec un champ de vision jusqu'à 180 degrés. Des capteurs de position sont intégrés au casque, ou à des accessoires complémentaires. Des joysticks adaptés vous permettent de retranscrire vos mouvements à l'intérieur du monde virtuel. Le but, en sollicitant au maximum les sens de l'utilisateur, c'est de vous donner le sentiment de vivre réellement la situation projetée devant vos yeux, et de pouvoir interagir avec elle, et de sauter en parachute, de manier un outil ou de plonger sous les mers. La force de cette technologie, c'est donc de réussir à convaincre notre cerveau qu'il se trouve dans la réalité. La réalité virtuelle est désormais souvent complétée par la réalité augmentée. Celle-ci consiste à superposer des éléments virtuels sur le monde réel. Le premier jeu qui a fonctionné selon ce principe est Pokémon Go, que beaucoup de gens connaissent. La réalité augmentée s'enrichit aussi de la technologie Leap Motion, un dispositif de reconnaissance gestuelle permettant de contrôler un environnement numérique avec les doigts, sans manette ni souris. Cette technologie est déjà accessible, même si elle en est à ses débuts, et va progresser vraisemblablement très rapidement. Ayez en tête juste deux films de Spielberg, Minority Report pour le Leap Motion et Ready Player One pour la VR, qui illustrent très bien ce que ces concepts pourraient être poussés à leur paroxysme.
Et est-ce que beaucoup de familles ou de personnes sont déjà équipées de cette technologie ?
Elles sont en développement depuis maintenant plusieurs années, et si les lunettes à réalité augmentée ne sont pour le moment pas encore optimales pour un lancement vers le grand public, les casques de VR commencent à rencontrer pour leur part un réel succès. L'année 2019 notamment a vu les ventes véritablement décoller pour la première fois, avec une augmentation de 65% de ventes par rapport à l'année 2018. Dans le monde, ça représente environ 8,5 millions de casques vendus, dont 330 000 en France. Et ce marché est prévu pour continuer son expansion dans les années à venir. Des entreprises comme Facebook, Google et autres investissent des sommes très importantes dans la recherche et dans le développement de ces technologies. Donc, nous faisons le pari que ce qui restait plutôt confidentiel prend de l'ampleur et c'est ce qui nous a donné envie de partager avec vous cette chronique qui est peut-être un peu futuriste.
Et selon vous, quels sont les intérêts de la réalité virtuelle ?
Les intérêts vont concerner le domaine ludique en premier lieu, même si la part des jeux vidéo produits pour les casques VR par rapport aux jeux vidéo produits classiquement reste très mince à l'heure actuelle, il faut bien le reconnaître. Mais aussi le domaine de la formation ou celui du soin vont être concernés. Alors du côté de la formation, ça peut être des apprentissages sécurisés dans des domaines qui vont demander beaucoup de précision d'expérience, comme la médecine ou l'aviation. Dans le domaine du soin, la réalité virtuelle est déjà expérimentée et utilisée dans le traitement des phobies ou pour baisser le niveau d'anxiété voire de douleur dans le cadre d'opérations chirurgicales. Et puis citons encore Pokémon Go qui a pu inciter des enfants ou des adolescents à sortir et à avoir un peu d'activité physique. Il y a encore sans doute beaucoup d'applications de la réalité virtuelle en développement ou qui vont voir le jour dans les années qui viennent.
Et est-ce qu'il y a des inconvénients ou des risques clairement identifiés ?
Du côté des inconvénients, la pratique prolongée du casque immersif peut entraîner une fatigue accrue au niveau visuel, se manifestant par des migraines ou des douleurs oculaires. On estime souvent qu'il ne faudrait pas dépasser une vingtaine de minutes avec un casque de VR sur la tête. Sont aussi soulevés des problèmes liés aux données personnelles de l'utilisateur. Selon le site realitévirtuelle.com, que ce soit avec des applications de réalité augmentée existant déjà, comme les filtres sur Snapchat et Facebook Messenger, ou que ce soit avec des casques de VR, des données sensibles comme vos expressions faciales, vos discours ou même les motifs de votre iris sont collectées et décortiquées et peuvent permettre de vous identifier très facilement. Entre de mauvaises mains, ça pourrait permettre à l'avenir à des hackers d'utiliser votre identité dans la vie réelle ou même dans la vie virtuelle. Toujours selon ce site, revêtir ces casques revient à laisser les GAFAM voir à travers vos yeux et entendre avec vos oreilles. Par ailleurs, le côté immersif peut éventuellement créer un désir chez l'utilisateur de passer de plus en plus de temps dans ces univers virtuels, au détriment de la réalité, avec un risque de perte de contrôle renforcé par l'intensité de l'expérience. C'est donc la question de la déconnexion qui se pose et se posera de manière accrue pour tout le monde. Comme pour les écrans actuellement, le risque est d'aller chercher dans ces univers de plus en plus attractifs la satisfaction, la gratification qu'on peut parfois avoir le sentiment de ne pas trouver dans la vie de tous les jours. En tant qu'intervenant en addictologie, c'est à ces processus que nous sommes attentifs. Or, il faut bien voir que plus un objet est susceptible de nous donner le sentiment de combler le vide de nos existences ou d'augmenter l'intensité de la vie, et plus son potentiel addictif est fort. Il y a évidemment un enjeu éducatif très fort envers les enfants et les adolescents qui, du fait de leur immaturité cérébrale, sont particulièrement vulnérables face à l'attractivité de ces technologies. Mais les adultes sont eux aussi confrontés à cette question du temps passé devant les écrans et de ce qu'ils y font. Il y a donc un enjeu éducatif autant qu'un enjeu de santé. Que va produire une technologie de plus en plus immersive et connectée sur nos habitudes de vie, nos relations aux autres, sur le développement même de notre cerveau, nos façons de travailler, etc. La révolution numérique n'est pas terminée, loin de là, et il est intéressant et important de réfléchir à ces questions.
C'est toujours Génération sur Radio G. On va se faire une petite pause musicale. On écoute le morceau Smile de Jungle. Et on se retrouve juste après avec Pascal et Stéphanie pour parler du Parcoursup.
I just wanna see you try. You better. je suis Stéphanie Pouvreau et je suis psychologue de l'éducation nationale, conseillère en orientation scolaire et professionnelle au CIO d'Angers-Segré. Le CIO, c'est le Centre d'information et d'orientation.
Aujourd'hui, donc, on va parler du Parcoursup. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quel est l'intérêt et l'objectif de ce dispositif ?
Alors, Parcoursup, c'est la plateforme informatique où les élèves font leurs vœux concernant des formations post-bac. Donc, ça concerne les élèves qui sont en terminale, tout bac, que ce soit bac général, bac technologique, bac professionnel. Et ça concerne également tout le monde, que ce soit les étudiants qui sont éventuellement inscrits en première année de quelque chose, donc qui étaient en terminale l'année dernière, mais également à toute personne qui est en réorientation tout au long de sa vie. Donc ça s'adresse également aux adultes. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a mis en place ce Parcoursup il y a quelques années maintenant, et qui chaque année, il y a des nouveautés parce que chaque année, il y a des petits soucis concernant l'affectation. Et donc cette année encore, il y a des petites différences qui font que Parcoursup a évolué par rapport à l'année dernière.
C'est quoi les différences ?
Alors les différences, c'est que y a beaucoup plus d'écoles qui vont être cette année dans Parcoursup. Donc ça représente 15 500 formations, toutes filières confondues. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des concours pour rentrer dans certaines écoles du social, du paramédical, qui sont supprimés. Donc il y en avait déjà l'année dernière qui étaient supprimées et elles sont quasiment toutes supprimées cette année parce que les écoles intègrent le logiciel Parcoursup. Et donc ce sont uniquement c'est uniquement le dossier élève qui fait que l'élève va être recruté ou pas. Cette année, il y a également les écoles de commerce et d'ingénieurs qui gardent leur concours, eux, mais pour lesquels il va falloir impérativement passer par une inscription sur Parcoursup en plus. Il y a également en spécificité, il y a par exemple les IEP, les Instituts d'études politiques, donc ce qu'on appelle aussi Sciences Po. Tous les IEP intègrent Parcoursup, sauf celui de Paris. Donc celui de Paris garde encore son concours propre sans passer par Parcoursup. Donc il y a vraiment beaucoup de formations qui intègrent Parcoursup, avec quelques petites subtilités qui va convenir pour lesquelles il va falloir faire très attention si l'élève souhaite intégrer cette formation-là, et attention aux procédures justement.
Alors comment ça fonctionne ? C'est une application, une plateforme ? C'est quoi ?
Alors c'est un logiciel informatique qui est accessible sur Internet, mais qui est couplé également à une application téléchargeable sur son téléphone, avec également un service téléphonique pour si jamais on a des difficultés sur son profil. Mais c'est surtout un site Internet sur lequel il faut se créer un profil avec un identifiant, un mot de passe. Et en fait, les lycées vont se connecter également sur Parcoursup. Et tout le dossier élève, tous ces documents vont être transmis à ce logiciel sur Internet afin que les écoles puissent procéder à leur recrutement.
Et alors du coup, à qui s'adresser pour avoir plus d'infos sur le Parcoursup ?
Alors en premier, il va y avoir les professeurs principaux, c'est-à-dire un professeur qui est dédié dans la classe pour accompagner les élèves dans leur parcours post-bac. Depuis l'année dernière, il y a un deuxième professeur principal qui est nommé. Ensuite, il va y avoir le CIO, donc le Centre d'information et d'orientation. Vous avez celui d'Angers-Segré qui est boulevard du Roi René à Angers. Vous avez également le J-Connecté qui est place Saint-Bac à Angers. Et Pascal, si tu veux bien préciser.
Bonjour, Pascal Fredge, je travaille au J-Angers Connecté Jeunesse, qui est un service municipal de la ville d'Angers, et je suis conseillère informatrice jeunesse. Au niveau du J-Angers Connecté Jeunesse, vous pouvez trouver dans ce lieu des conseillers qui peuvent vous orienter, vous donner des pistes d'orientation. Vous pouvez venir consulter des fiches métiers, et on peut aussi vous accompagner sur l'inscription Parcoursup, et également sur la demande de bourse pour les études supérieures et la demande de logement lorsque l'on souhaite faire des études en dehors de sa ville habituelle. Et là, j'insiste beaucoup sur l'importance, lorsque l'on s'inscrit sur Parcoursup, de bien prévoir de faire son dossier social étudiant et également de réserver des logements le plus tôt possible, même si on n'a pas l'ensemble des villes sur lesquelles on va aller. L'important, c'est que le dossier soit fait, puisqu'après, de toute façon, tout se rééquilibre en fonction des villes où on va. Après, un autre petit conseil aussi, au niveau de Parcoursup, ce qui est important, c'est d'avoir une adresse mail qui soit dédiée à vos vœux et non pas une adresse mail que vous utilisez pour d'autres choses, puisque les mails risquent de se mélanger avec d'autres choses et vous risquez de passer à côté de choses importantes. Donc il faut vraiment créer, je pense, une adresse mail dédiée à Parcoursup et une adresse mail accessible à vos parents pour qu'ils puissent aussi vous aider dans votre démarche d'orientation. Le CIO avec le JNG Connecté Jeunesse organise une conférence le lundi 10 février à 18h au JNG Connecté Jeunesse 12 Place Saint-Bac qui s'adressera aux jeunes mais bien sûr aussi aux parents qui souhaitent venir s'informer. Et en février, on aura quand même tous les éléments sur la plateforme et toutes les nouveautés qui pourront être expliquées aux parents et aux jeunes.
Pour compléter ces dispositifs d'accompagnement, au CIO, il va être proposé des demi-journées d'accompagnement pour rédiger sa lettre de motivation, son CV ou son projet motivé, puisque en plus des vœux à saisir sur Parcoursup, pour chacun des vœux, il va falloir renseigner son profil. Donc il y a quasiment une lettre de motivation ou un projet motivé à rédiger par vœu, puisqu'il faut cibler l'école et expliquer pourquoi on veut y aller et en quoi on est intéressant pour l'école et qu'ils nous recrutent. Donc au CIO, en janvier et début février, donc avant les vacances de février, il y aura des sessions de proposer au sein du CIO qui seront précisées au niveau de la date. Alors tout n'est pas encore calé, mais si vous appelez le CIO, vous aurez des informations sur ces accompagnements concernant le dossier pour chaque vœu. Le serveur a ouvert le 20 décembre, mais vous allez pouvoir saisir les vœux à partir du 22 janvier et jusqu'au 12 mars. Donc il y a jusqu'au 12 mars pour rentrer les vœux. À partir de cette date-là, il sera possible encore d'agir sur les vœux, mais il sera plus possible d'en rentrer des nouveaux. Donc dans le doute, si un élève hésite sur une formation, surtout il faut l'inscrire dans Parcoursup, quitte à répondre non au mois de mai ou au mois de janvier, si deux mois après l'élève a avancé dans son projet et finalement n'est plus intéressé par cette formation-là. Il vaut mieux rentrer un vœu et dire non que de se dire mince, j'aurais dû le mettre. Donc jusqu'au 12 mars, on peut rentrer les vœux. Ensuite, entre le 13 mars et le 2 avril, il faut finaliser son dossier. Donc c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire remplir sa lettre de motivation, remplir son CV, enfin fournir toutes les pièces justificatives qui sont demandées par chacune des écoles. Et ensuite, ça va être le 19 mai où ça va être la première phase de réponse. Donc les élèves vont pouvoir aller consulter leur profil. Et en face de chaque vœu, ils auront s'ils sont pris, s'ils sont en attente, s'ils sont sur liste supplémentaire, etc., etc. Donc en fait, tous les jours, il va falloir aller se connecter sur son profil Parcoursup, car tous les jours, à minuit, en fait, tout est remis à zéro en fonction des réponses qui auront eu lieu la veille par rapport à tous les étudiants. Donc on peut être sur liste d'attente une journée, et le lendemain ou une semaine après, on est remonté dans la liste d'attente, donc on a son rang de classement. Et un beau matin, on peut être pris en fait. Et donc, il y faut répondre le plus rapidement possible si on veut être pris, pour pas que la place nous passe sous le nez. Et donc ça, entre le 19 mai et le 17 juin, il va falloir se connecter tous les jours. Il y a une suspension de la procédure pendant les épreuves du bac, donc entre le 17 juin et le 24 juin. Donc là, il n'y aura pas besoin d'aller se connecter, il n'y aura pas de nouvelles infos. Et donc après, à partir du 25 juin, c'est reparti. Tous les jours, on peut avoir des propositions d'admission. Et entre le 29 juin et le 1er juillet, il y a des points d'étape. C'est-à-dire que tous les élèves ou tous les postulants Parcoursup vont devoir absolument répondre à tous les vœux. Il y a une obligation de dire oui, oui mais ou non. Ce sont les trois modalités de réponse. Ensuite, le 7 juillet, il y a les résultats du bac. Donc les résultats, il va falloir confirmer définitivement son vœu. Parce que par exemple, un élève qui n'a pas son bac, bah, du coup, ça va changer des choses par rapport à ses modalités de réponse. Et le 15 juillet, ce sont les dernières propositions d'admission. Le 17 juillet, c'est la fin de la phase principale d'admission. Donc il ne sera plus possible de répondre quoi que ce soit, enfin tout sera bouclé. Donc ça veut dire qu'il faut éviter de partir en vacances début juillet, ou si on part en vacances, ou si on a trouvé un boulot et qu'on a commencé à travailler début juillet, il faut quand même s'assurer de rester connecté, d'où l'intérêt de l'application sur son téléphone, ou que les parents puissent avoir accès à l'adresse mail, messagerie, et pouvoir répondre sur le profil Parcoursup du jeune, parce qu'il y a jusqu'au 17 juillet la procédure. Et en complément de ça, de fin juin au 11 septembre, il y a également une phase complémentaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir formuler des nouveaux vœux, mais sur des formations pour lesquelles on n'avait pas postulé. Donc ça, c'est par exemple pour les élèves qui n'ont eu aucune proposition d'admission ou qui n'avaient pas participé à Parcoursup parce que avant le mois de mars, ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir envie d'y participer. Donc voilà, c'est-à-dire que tout ce calendrier, toutes ces procédures sont détaillés sur le site internet parcoursup.fr. Donc tout ce que je viens de dire, vous pouvez le retrouver sur le site internet ou venir nous voir au CIO, au Centre d'information et d'orientation. On vous accompagnera à la fois dans les procédures, mais également dans votre projet personnel, dans vos envies, vos intérêts, et bien sûr aussi au J'y connecté, qui est un point ressource important. Il y a une nouveauté cette année, c'est Parcours Plus. En fait, c'est le nom du nouveau module qui est dédié aux candidats en reprise d'études sur Parcoursup. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas élèves de terminale ou qui ne sont pas inscrits dans une formation post-bac, donc en première année de quelque chose. Donc, en fait, cette plateforme va être dédiée à ce type de profil pour vraiment les accompagner au plus près, donner des informations spécifiques en fonction de leurs demandes et de créer des liens entre les établissements, les candidats et éventuellement les conseils régionaux qui participent à l'offre de formation. Donc voilà, il y a Parcoursup et il y a Parcours Plus pour ceux qui ne sont pas en situation scolaire actuellement.
Et ça aussi, on peut aller sur le site internet pour en savoir un peu plus.
Bien sûr, tout est sur le site internet Parcoursup. Et bien sûr, autrement, venir nous rencontrer et vous expliquera tout ça.
Pascal, tu veux rajouter quelque chose peut-être ?
Alors, je vais aussi vous parler de la plateforme dédiée aux étudiants qui s'appelle Mes services étudiants, sur laquelle vous retrouvez la possibilité de faire votre demande de dossier social, donc le DSE, et votre demande de logement, quelle que soit la ville où vous voulez aller. C'est très important, et une fois que vous aurez votre logement, vous pourrez aussi suivre l'évolution de vos demandes sur ce site. Voilà.
Merci Stéphanie, merci Pascal.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute du 101.5 FM de Radio G dans Génération. On est encore ensemble jusqu'à 13h40. On poursuit l'émission. On va parler de deux nouvelles licences qui vont débuter à la rentrée à l'Université catholique de l'Ouest. Pour en parler, je laisse la parole à Sophie Roche.
Je m'appelle Sophie Roche-Véras et puis je suis la doyenne de la Faculté des Humanités à l'Université catholique de l'Ouest. Donc la Faculté des Humanités regroupe 8 filières que sont l'art plastique, histoire de l'art, histoire, lettres, information communication, LLCE, LEA, musicologie et bientôt la licence art du spectacle. Je crois que cette licence, elle allie une formation théorique à une formation très pratique, et c'est ce lien entre pratique et théorie qu'on veut construire. Voilà, je crois que ça, c'est l'essentiel de cette licence. Donc, c'est une licence qui est inscrite dans une majeure, hein, ou ce qu'on appelle une mention. Et puis, à côté de ça, on peut choisir une mineure, hein, qui, donc la majeure constitue 60% des enseignements. Et puis, la mineure fait 30% des enseignements. Donc, on peut choisir ou bien du théâtre, ou bien aller plus vers les arts plastiques, ou plus vers pourquoi pas l'histoire de l'art. Donc, compléter sa licence par une mineure. Donc, c'est un cursus qui est complet dans le domaine du spectacle vivant, donc, et qui s'inscrit en étroite collaboration avec des structures culturelles régionales, le Quai, le THV, évidemment le Conservatoire, la DRAC, Pays de la Loire, la Ville d'Angers, Donc toutes ces, et peut-être et certainement j'en oublie, mais c'est évidemment pour construire avec le terrain, puisqu'on ne peut pas construire une telle licence sans prendre en compte le terrain. Il faut savoir qu'on a déjà un master, hein, un master établissement de projet culturel. Donc la continuité peut être évidemment ce master. Et puis ensuite, les métiers, ce sont tous les métiers qui sont liés à l'art du spectacle, à la culture, comme artiste du spectacle vivant, dans la production, la diffusion, chargé de mission culturelle, donc dans le social également, dans le mécénat culturel, donc des possibilités variées et construites dans une forme de transversalité. Pour moi, le prérequis, c'est la motivation. Hein. C'est être motivé, avoir envie, c'est le prérequis essentiel. Après, évidemment, on va avoir un mélange d'étudiants qui aiment la danse, qui aiment la musique ou qui aiment d'autres formes d'art. Et l'intérêt, c'est justement de construire avec eux. Mais la base première, c'est aimer. Il y a une autre licence. Alors, nous, on a déjà la licence LLCE anglais-espagnol et anglais-allemand. Et là, on a construit une autre licence et on a vraiment pris plaisir à construire cette licence qui est très originale parce qu'elle essaye, c'est une licence anglaise, hein, anglais, j'ai envie de dire, puisque de plus en plus d'étudiants sortent de terminale et aiment une langue et aiment moins une autre langue. Donc, ça permet de développer ses compétences en anglais et avec une expertise en français, puisque ce qui est intéressant aussi quand on apprend une langue étrangère, c'est d'avoir de la réflexion et d'avoir une réflexion sur sa propre langue et sur sa propre culture. Et donc, c'est une réflexion, donc anglais-anglais, avec une expertise en français. Et on a ajouté également une mention qui nous semble essentielle dans une faculté des humanités, c'est ce lien entre une culture humaniste et une culture digitale. Donc, elle allie anglais, expertise en français, culture humaniste, culture digitale, pour en faire, j'ai envie de dire, un savant mélange et un mélange qui nous semble être cohérent. Alors, cette licence, elle s'appelle licence LLCE, anglais, avec expertise en français. Alors, les métiers sont assez variés. Hein. D'abord, l'enseignement, parce que maintenant, depuis les toutes petites classes, on cherche des enseignants en anglais. Hein, et puis ensuite, il en faut aussi dans les écoles primaires, collèges, lycées. Et je pense que ça permet en effet de construire de bonnes connaissances en anglais. Également la traduction, mais aussi l'expertise linguistique en entreprise, la gestion de l'information, de la documentation, la communication internationale, le tourisme, le patrimoine, les arts et cultures. Je pense qu'il y a un panel de métiers qui sont visés et qui permettent à l'étudiant de s'appuyer sur des connaissances solides en langue, sur la culture étrangère et sa propre culture. Donc c'est une nouvelle licence, c'est septembre 2020, donc la faculté des humanités va donc avoir 9 licences, plus 7 licences aussi, hein, 9 licences avec le parcours art du spectacle, plus la licence anglais avec cette expertise en français, culture humaniste, culture digitale. On a une porte ouverte qui a lieu le 8 février. Donc, on sera bien content d'accueillir tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ces deux filières, mais également par tout ce qu'on propose à la Faculté des Humanités et à l'Université catholique de l'Ouest en général. Notre souhait est que les étudiants se sentent bien pour apprendre, parce que pour ma part, quand on se sent bien, on a plus envie d'apprendre. Et je pense qu'il ne faut pas, qu'on peut avoir être exigeant et à la fois bienveillant. Et c'est bien vers ces valeurs-là, hein, des valeurs aussi de dialogue, des valeurs de proximité. Et c'est là-dessus qu'on travaille aux humanités, et heureusement, et puis aussi à l'Université catholique de l'Ouest.
On arrive à la fin de notre émission. Comme d'habitude, on va finir avec les jeunes en service civique à Unicité. Aujourd'hui, ils sont venus nous parler de leur mission autour du gaspillage alimentaire.
Je suis Céline Lemarchand et j'ai 21 ans.
Bonjour, moi c'est Aurélie, j'ai 21 ans aussi.
Moi du coup, c'est Maëva et j'en ai 20.
L'objectif, si on parle de chiffres, c'est de réduire de 30% le gaspillage alimentaire entre les pesées qu'on fait au début de notre projet et celles faites à la fin du projet, donc d'ici avril. Et ensuite, on fait un compte-rendu de tous ces chiffres et de la réduction du gaspillage alimentaire, si on a réussi ou pas notre objectif, à l'entreprise qui sert tous les repas, qui livre tous les repas aux collectivités.
Notre but de premier était de faire des pesées donc en début d'année. Et là, par la suite, on est en sensibilisation, donc en action avec les enfants. Donc on fait des tables, des activités avec eux, dans le but de les sensibiliser dès le plus jeune âge, quoi.
Alors concrètement... Donc on a des pesées, comme ce que vient de dire Maëva, et donc pour atteindre notre objectif de 30%, on agit, on anime des temps périscolaires, donc sur le temps du midi, sur trois quartiers différents, l'une est à Jules Verne, à La Roseraie, l'autre à Lebas, dans le centre-ville, et Brossard, qui est dans les Justices. Voilà, et puis on a aussi trois centres de loisirs différents, donc Paul Bert, qui est aussi dans le centre-ville,
Fratellini,
Fratellini et la Claverie, de Croix-Blanchet, ouais. Et la Claverie Saint-Barthélemy.
Être au contact des enfants, c'est vraiment génial. J'ai jamais eu encore cette expérience-là. Et du coup, c'est ma première expérience aussi avec les enfants. Et les sensibiliser sur ce sujet, j'adore parce que déjà, ils accrochent. Ils sont jeunes, ils écoutent. Non, c'est vraiment bien. C'est ce que je préfère.
Hier, j'ai eu l'occasion de faire ma première activité avec les enfants, du coup, à la Claverie. Et je m'attendais à ce que ce soit... qu'ils ne m'écoutent pas ou qu'ils partent dans tous les sens, que ça court, que ça parle entre eux. Mais au final, non, ils ont été attentifs. Ils se sont pris au jeu, ils ont joué avec moi, ils ont compris les règles. Et ça, c'était fantastique, quoi. Genre, vraiment, c'était beau à voir. Et ça m'a fait plaisir.
Ce que j'apprécie le plus, moi, c'est d'être au contact des enfants. Je travaille là-dedans depuis quelques années, 2 ou 3 ans. Mais par contre, là où c'est nouveau pour moi, c'est de sensibiliser à l'environnement. Et donc, c'est forcément une autre approche que faire une animation sur l'art ou sur des jeux de société ou donner un cours de français. C'est pas du tout la même approche, ni la même méthodologie ou... Voilà, on n'agit pas de la même manière et l'approche n'est pas la même suivant l'âge de l'enfant. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est d'avoir une approche d'apprentissage et de sensibilisation différente suivant l'enfant. Bah, personnellement, c'est surtout des valeurs humaines et des compétences professionnelles que j'acquiers au cours de ce service civique, puisque c'est là que dans ce domaine que je travaille.
Moi, ça m'apporte énormément de joie de faire ce service civique-là.
C'est vraiment un beau projet qu'on est en train de réaliser. Et franchement, ça peut me servir pour plus tard. On a à côté des formations civiques et citoyennes qu'on a eues justement aujourd'hui.
Je suis super heureuse d'aller voir les enfants à l'école, d'être avec eux, de jouer avec eux, de les sensibiliser. D'être à l'écoute aussi parce que, certes, c'est un service civique sur l'anti-gaspillage, mais on se rend compte d'énormément de choses à l'intérieur des écoles aussi, entre les élèves, entre eux. Et je sais que je suis basée sur la psychologie, un peu. J'aime beaucoup ça. Et il y a beaucoup d'enfants qui me rapportent beaucoup de problèmes qui se passent, et j'aime bien les guider, les écouter, ou essayer de les réconforter dans ce qui se passe.
On apprend beaucoup, et puis on fait attention à certaines choses qu'on ne faisait pas attention à. Sur la vie en société, voilà.
Dans la mission avec mes autres collègues volontaires, c'est vraiment super, on s'entend tous très bien et je m'attendais pas à ça. Vraiment, j'avais une très très grande appréhension sur les autres volontaires. Je me suis dit, j'ai peur de me retrouver avec des personnes qui sont complètement différentes de moi, mais au final, aussi. C'est les différences qui apportent la richesse aussi. C'est vraiment fantastique.
On a des temps qu'on appelle APA, projet d'avenir. Et le service civique est aussi utilisé pour que les volontaires puissent réfléchir à leur projet professionnel ou à la fois faire une pause. Comme je l'ai dit, c'est mon cas pour les études supérieures. Mais voilà, le service civique a pour volonté de C'est parce que pour être volontaire en service civique, il faut avoir moins de 30 ans. Donc on est sur une tranche d'âge où on réfléchit énormément à notre projet d'avenir et à ce qu'on veut faire plus tard. Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? Et donc voilà, donc notre service civique nous pousse à réfléchir là-dessus, à être guidés. On a des rencontres de professionnels, des forums là-dessus. Et voilà.
Oui, on travaille beaucoup avec des associations aussi, c'est cool. Ça nous permet de découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas, des personnes aussi, enfin des associations qu'on ne connaissait pas également. Et par exemple, Solidary Food, je ne connaissais pas, je ne connaissais même pas la cité des associations avant. C'est cool d'être, comment dire ça, si proche des personnes, des associations d'Angers, alors que... Enfin, c'est dans notre ville, mais on ne les connaît pas, quoi. Pas pour autant.
Même j'ai un projet professionnel... déjà en tête. Avec l'association Solidary Food, où on discute bien, ça se passe super bien avec les membres de l'asso, ils vont pouvoir me filer des contacts. Donc rien que ça, moi je suis super contente pour l'avenir.
Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie Vincent Biro, Sandrine Capelle, Sophie Roche, Pascal Fredge, Stéphanie Pouvreau, Céline Aurélie et Maïva qui ont participé au contenu de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est disponible en podcast sur le site radio-g.fr. Nous, on se retrouve dans un mois. Rendez-vous donc le jeudi 27 février pour la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et un bon mois de février et un bon après-midi sur les ondes de Radio G.